BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Maurice.
Bonjour à tous, c'est l'heure de votre émission RH. Bienvenue dans Happy Boulot, on est ensemble pendant une demi-heure. Et dès le début de cette émission, on vous emmène à l'hôpital pour prendre le pouls du personnel, les soignants, mais pas que, les fonctions administratives aussi. À l'heure où l'hôpital est en crise, quelle est la marge de manœuvre des RH? Pour en parler, nous serons avec Rodolphe Soulier, DRH de la Fédération Hospitalière de France. Dans 10 minutes, c'est la séquence service de notre émission. On répond à vos questions avec Camille Bourg et avec nos avocats. Camille.
Bonjour Erwan, aujourd'hui on répond à une question avec Juliette Corret, avocate associée au cabinet Ayash. Un salarié a commis une faute au travail, filmé par hasard des caméras de surveillance installées pour la sécurité des salariés. Est-ce une preuve valable? Écrivez-nous, vous aussi, pour interpeller nos avocats en droit du travail à l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr.
Dans le meeting, on parlera d'empathie. Quand on est manager, comment en faire assez, mais pas trop non plus. Et puis en fin d'émission, Camille, on va vous retrouver dans notre labo de bonnes idées pour se reposer au bureau. Qu'est-ce que vous nous avez déniché?
Alors, je vous ai trouvé des startups qui proposent de faire des massages, de la méditation ou de faire la sieste au travail.
Ça donne envie. Voilà le programme. Merci d'être avec nous. C'est parti. On vous sort de votre boîte.
Happy Boulot, le DRH de la semaine.
L'hôpital est en crise. Comment les RH peuvent-ils agir dans ce contexte? On en parle avec vous, Rodolphe Soulier. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invité. Vous êtes responsable du pôle RH de la Fédération Hospitalière de France, la FHF, qui représente 1,2 million de professionnels de santé dans le secteur, secteur public, hospitalier et médico-social. D'abord, au global, peut-être pour commencer, comment évolue la situation sur les métiers en tension, puisque c'est quand même l'un de vos gros dossiers RH depuis maintenant quelques années?
C'est un dossier important, effectivement. Les métiers en tension, globalement, c'est un terme un peu générique. La question, c'est de savoir de quel métier on parle. Et peut-être la première idée, c'est que les métiers sont nombreux à l'hôpital, qu'ils dépendent de plusieurs filières, celles que l'on voit et puis celles que l'on voit moins. Et travailler sur les métiers en tension, c'est arriver à répondre aussi bien à ceux qui parlent à tout le public, les blouses blanches.
Ceux qu'on voit en fait quand on va à l'hôpital.
Ceux que l'on voit quand on va à l'hôpital. C'est intéressant que vous en parliez, parce que si vous allez à l'hôpital, bon, ce que je ne vous souhaite pas, quoique parfois c'est pour des bonnes raisons, vous allez peut-être croiser 10 ou 12 de ces métiers. Si vous regardez tout l'hôpital, il y en a environ 200 des métiers hospitaliers. Et donc, s'intéresser aux métiers sensibles, c'est d'abord se poser la question de qu'est-ce qui fait que certains le sont sous un certain axe et qu'est-ce qui fait que les autres le sont. Et les réponses ne sont pas exactement les mêmes, parce que certains sont très spécifiques au monde de la santé et il y en a d'autres qui sont plus traditionnels et qu'on retrouve dans plusieurs secteurs d'activité.
Ouais, donc des réponses très différentes à apporter, vous, depuis votre poste de ressources humaines. Globalement, quelle est la tendance? Parce qu'on sait que le gouvernement a dit qu'il voulait investir davantage dans l'hôpital pour justement réduire ces tensions. Est-ce qu'on est sur une bonne pente?
On est plutôt sur une bonne pente, effectivement, parce qu'il y a deux grands investissements qui ont été engagés aujourd'hui. Il y a tout ce qui a tourné autour du Ségur, ce qu'on appelait les accords du Ségur de la santé, qui a plutôt mis l'accent sur les rémunérations, avec des effets notamment de rattrapage qui sont conséquents. C'est un effort national conséquent qui a été réalisé dessus. Et il y a un deuxième axe qui a été travaillé, c'est celui du nombre de professionnels qui rentrent en formation. Là, on parle vraiment des métiers du soin, c'est-à-dire ceux, pour le coup, que l'on va voir, qui vont être visibles, avec un nombre d'entrées en formation qui a significativement augmenté depuis 3-4 ans, qui doit se poursuivre. C'est une démarche que la FHF porte largement.
Et ça va prendre du temps.
Alors, ça prend un peu de temps parce qu'évidemment, ce sont des formations plutôt longues.
Bien sûr.
Et donc, entre le moment où les professionnels rentrent et le moment où ils se retrouvent sur le marché du travail, eh bien, il y a une petite différence de quelques années.
Comment on recrute aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir valoriser ces métiers-là, plus de 200 métiers, vous disiez, parce qu'il y a une grande disparité aussi aujourd'hui avec le privé, donc il faut convaincre les professionnels de venir dans le public, et c'est pas forcément évident.
Alors on peut le faire de deux manières différentes. La question des rémunérations, elle a pour partie été traitée par les éléments du Ségur que j'évoquais tout à l'heure, donc les écarts sont plus forcément aussi importants que ceux que l'on a pu connaître.
Ils sont de quel ordre aujourd'hui?
Alors c'est très variable d'un métier à l'autre par définition, puisque ça dépend des différentes grilles, et puis ça dépend aussi du mode d'exercice, puisque la réalité c'est que la comparaison entre l'exercice dans le public et l'exercice dans le privé, est un peu plus complexe que ça. Dans le privé, il y a l'exercice libéral, vous êtes rémunéré à l'acte, il y a l'exercice salarié qui ressemble à l'exercice hospitalier mais auprès d'une structure privée, et donc ça va vraiment dépendre des politiques salariales et de la réalité de l'activité que l'on retrouve à chaque fois. Mais ce qui est important, c'est que on arrive sur cette dimension de service public à travailler sur deux notions clés, celle des valeurs. S'engager dans le cadre du service public hospitalier, que ce soit d'ailleurs à l'hôpital ou dans le secteur médico-social, c'est aussi s'engager pour une cause, d'une certaine manière, pour des valeurs qui sont des valeurs fortes, qui sont aussi bien celles du service public, valeurs républicaines d'une certaine manière, ou celles du collectif et de l'état d'esprit collectif, notamment dans des conditions d'exercice, et c'est un peu le deuxième point qui sont particulières, puisqu'aujourd'hui un hôpital il tourne 24 heures sur 24, il tourne 7 jours par semaine, et c'est important de pouvoir s'y engager avec ces valeurs-là pour répondre à ces contraintes.
Mais de manière concrète, alors, qu'est-ce que vous changez ? Parce qu'on sait que les personnels, de toute façon, à l'hôpital, sont déjà, de fait, très engagés, malgré des conditions souvent très difficiles. Comment vous faites pour améliorer la situation de ces personnes qui sont déjà en poste, qui sont déjà très engagés et qui voudraient, qui n'ont pas envie de quitter la profession parce que justement ils sont attachés à leur métier, c'est ce que vous disiez, mais qui aimeraient vivre un peu mieux, avec plus de confort peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez apporter ?
Le cœur du sujet, c'est clairement les conditions de travail, donc oui. C'est l'organisation. Il peut y avoir plusieurs manières, il n'y a pas de recette magique évidemment,
mais des pistes
d'organisation. Il y a une piste qui d'ailleurs dépasse le sujet des ressources humaines, qui est celle de l'organisation générale de notre système de santé, et notamment mettre l'accent sur tout ce qui peut vous éviter d'aller à l'hôpital. C'est le virage de la prévention, par exemple. C'est un sujet qui est porté avec force par la Fédération hospitalière de France, en considérant que ça permettra d'améliorer aussi les conditions de travail des professionnels à l'hôpital si on limite le nombre de personnes qui ont besoin d'y avoir recours.
Oui.
C'est un axe.
Oui.
Et puis, dans les autres éléments, on peut travailler aussi sur l'accompagnement, la prévention de ce qu'on appelle les risques professionnels ou de l'usure professionnelle. C'est aussi un combat qu'a mené la Fédération hospitalière de France à travers notamment la création d'un fonds dédié à la prévention de l'usure professionnelle qui a été créé en 2023. Et dont on travaille aujourd'hui avec les pouvoirs publics à la déclinaison effective des mesures qui permettra de financer.
On parle de plein de sujets RH dans cette émission, notamment la semaine en 4 jours, qui fait de plus en plus d'émules, même si c'est encore à la marge. Mais à l'hôpital, ça donne quoi ? Est-ce que c'est quelque chose c'est une piste, quelque chose qui pourrait exister un jour ? Je voyais dans les chiffres que 66% de l'effectif total que vous représentez, enfin, dans les hôpitaux, à moins de 30 ans. Aujourd'hui, c'est aussi une demande des jeunes générations de mieux organiser le temps de travail. Vous en pensez quoi ?
Alors, le temps de travail, c'est clairement une attente. À la limite, presque plus que le temps de travail, c'est le rapport entre vie professionnelle et vie privée. C'est cet équilibre-là qui est recherché. Et pas seulement chez les jeunes générations, d'ailleurs. C'est un phénomène de société qui est attendu. La semaine en 4 jours, en particulier, elle a une connotation spécifique à l'hôpital, puisqu'en fait il y a beaucoup de métiers qui travaillent déjà sur des horaires qui seraient considérés comme atypiques quand on regarde au global. Des horaires en 12 heures, des horaires en 10 heures, donc beaucoup de professionnels travaillent déjà de fait moins que 5 jours dans une semaine parce qu'ils travaillent sur des horaires élargis. En revanche, c'est un sujet qui est assez prometteur pour des fonctions qu'on appelle parfois fonction support, ce qui n'est pas très joli comme terme, mais qui sont celles d'accompagnement du soin et qui peuvent celle-ci peut-être trouver des réponses à travers ce dispositif-là.
Un dernier mot, 80% de femmes dans aussi les effectifs que vous représentez. Pourtant, on a encore beaucoup de témoignages de violences sexistes de la part de certains personnels masculins à l'hôpital. On a vu cette vague aussi de MeToo hôpital. Comment est-ce que vous abordez, vous, ce problème d'un point de vue RH ?
Alors, c'est un combat ancien, pour le coup, de la FHF. C'est presque même la lutte contre tous les types de violences et tous les modes de discrimination. La FHF a eu l'occasion de se pencher sur le sujet encore récemment, précisément pour accompagner cette démarche. Les enquêtes que l'on a montrent que beaucoup d'établissements sont engagés aujourd'hui sur ces sujets-là, avec des dispositifs de signalement, des dispositifs d'accompagnement des victimes et des dispositifs évidemment de
sanctions. Donc ça avance, on en fait plus ?
C'est une dynamique qui doit continuer, ouais, effectivement, qui avance et qui sera renforcée, on l'espère, grâce à l'intervention des pouvoirs publics.
Rodolphe Soulier, il nous reste 30 secondes pour mieux savoir aussi quel manager et RH vous êtes. C'est Théo qui vous amène tout de suite la boîte du DRH dans laquelle je vais vous inviter à piocher un petit papier, une phrase à compléter, en étant le plus spontané possible, toujours. Je vous laisse nous la lire.
Alors, dans ma boîte, les augmentations, c'est pas question négociable ou collectif. C'est collectif, évidemment. La fonction publique hospitalière,
c'est l'hôpital,
fait que ces augmentations sont collectives. Et le Ségur de la Santé l'a montré, d'ailleurs, récemment. Tout comme, d'ailleurs, le dégel du point d'indice. Donc, le travail est toujours collectif. Et à la limite, ce mot est beau parce que, précisément, il représente une des valeurs principales du service public hospitalier.
Merci d'avoir joué le jeu, Rodolphe Soulier, DRH de la Fédération Hospitalière de France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, on appelle notre avocat.
Et on joint tout de suite Juliette Corret, avocate associée au cabinet Ayage, pour répondre à cette question. Un salarié a commis une faute au travail, filmée par hasard par des caméras de surveillance installées pour la sécurité des salariés. Est-ce une preuve valable ? Écoutez.
Alors, aujourd'hui, oui, ça peut être une preuve recevable. Ça n'est pas systématiquement valable, mais ça peut être recevable depuis un revirement récent de la Cour de cassation qui a considéré que dès lors que la preuve ne peut être obtenue que par ce moyen, même s'il est obtenu par un moyen illicite, elle peut être recevable. Maintenant, ça sera toujours une appréciation au cas par cas des juges.
Merci, écrivez-nous vous aussi pour interpeller nos avocats en droit du travail à l'adresse happyboulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
Happy Boulot, le meeting.
Une question, comment rester empathique dans les moments difficiles quand on est manager ? C'est l'un des dossiers traités dans le dernier numéro de la Harvard Business Review dont vous êtes la rédactrice en chef adjointe, Caroline Montaigne. Bonjour.
Bonjour Erwan.
Ravi de vous retrouver dans Happy Boulot. Très belle une qu'on va voir pour ceux qui nous suivent à la télévision. Alors, je ne sais pas si c'est le tigre qui se transforme en chaton ou le chaton qui cache un tigre.
Ça va dans les deux sens.
Ça va dans les deux sens.
C'est l'idée.
C'est vraiment le sujet aussi que vous développez. On va y revenir. Pour parler de ce thème aussi avec nous, Christophe Nguyen. Bienvenue Christophe.
Merci.
Je vous rappelle que vous êtes psychologue du travail, président d'Empreinte Humaine, cabinet spécialisé dans la promotion de la qualité de vie au travail. Caroline Montaigne, plusieurs risques à l'empathie du manager, dossier que vous traitez donc dans le magazine cette semaine, enfin ce mois-ci. Celui dont on parle le plus souvent, c'est le burn-out. Burn-out des managers, qui est de moins en moins tabou, c'est vrai qu'on l'évoque. À être trop empathique, on se retrouve à se surcharger en voulant décharger les autres, et ça c'est exactement le côté obscur quoi.
C'est exactement ça, on croit bien faire et parfois on fait trop bien, et du coup on peut être en situation de burn-out en tant que manager, parce qu'émotionnellement et physiquement c'est éreintant d'être un manager empathique. D'ailleurs on parle de fatigue de la compassion, et c'est un terme à la base qui vient du milieu plutôt médical, hospitalier, mais qui touche de plus en plus aussi les managers intermédiaires, parce que c'est une population qui est extrêmement touchée par le burn-out. Alors pourquoi ils sont très touchés par le burn-out? Parce que c'est traditionnel une fonction qui s'absente peu, parce qu'elle a beaucoup de responsabilités, elle se dit je dois être là, même si je suis malade, même si je ne suis pas très bien. On lui fait porter beaucoup de responsabilités si les résultats ne sont pas là, si l'équipe ne fonctionne pas bien, pour quelques raisons en fait, il est responsable de tout. Et donc il y a en plus maintenant la charge mentale, le bien-être des salariés et souvent leur mal-être. Parce que effectivement les chiffres sont un peu inquiétants. Aujourd'hui 42% des collaborateurs se disent en détresse psychologique. Presque un sur deux quand même, c'est énorme.
On a plus envie d'être manager là, non? Ça devient compliqué.
Effectivement, il y a une crise aussi des vocations. Je pense qu'on parle beaucoup d'exemplarité des managers. Il faut être engagé, il faut être, on va dire aussi, le doigt sur la couture. Et je crois qu'à force de trop donner et de s'oublier soi-même, un peu cette approche, un peu de sacrifice, qu'on a beaucoup vu pendant la crise sanitaire, et je pense qu'il y a des repères à replacer, on va certainement en parler, amène aussi un peu une crise des vocations, parce que les collaborateurs voient leurs managers qui ne sont pas forcément en forme, voire qui peuvent s'arrêter. Donc on peut se poser de l'impact aussi d'avoir un manager un peu poulet sans tête, comme on dit, qui court un peu partout, qui est pas bien. Ou finalement, est-ce que ça nous inspire, finalement, quand on le voit qu'il respire pas, en fait, d'une certaine façon.
Et pourtant, voilà, on le disait, donc il y a des injonctions aujourd'hui, de plus en plus, pour les salariés, mais pour les managers en particulier, puisque c'est dont on parle cette fois-ci. Être empathique, Oui. Ça devient une. Enfin, il faut que ça soit vraiment une qualité quand on exerce un poste de manager.
Oui, et je crois que c'est un vrai levier de management, un vrai levier d'efficacité, pas seulement pour avoir de bonnes relations, pour savoir gérer les bobos du quotidien, mais aussi c'est un vrai levier d'efficacité managériale. Parce que si vous ne comprenez pas ce qui se passe au sein de vos équipes, si vous ne savez pas vous mettre à la place, vous ne serez pas en capacité aussi de savoir gérer la charge de travail, de savoir reconnaître le travail, de savoir recadrer aussi des situations ou être en soutien et anticiper un petit peu. C'est pas juste l'empathie, savoir écouter les bobos ou toutes les plaintes. Hein. Mm-hmm. Je pense que ça serait une erreur, effectivement.
Mais donc, un mauvais manager, c'est un manager qui n'a pas d'empathie ?
Alors, un mauvais manager, c'est un manager qui a trop d'empathie ou pas assez d'empathie. Donc, il y a un équilibre à trouver. Le manager qui est absolument pas à l'écoute, qui est froid, qu'on a peur d'aller voir, à qui on va rien dire, on va cacher des choses, on va dire, de peur de s'en prendre une, par exemple, ou alors qui est complètement indifférent, ce qu'on appelle le manager apathique, c'est-à-dire celui qui, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, il va rien faire du tout. C'est extrêmement mauvais et délétère pour l'équipe, mais aussi pour l'efficacité du travail. À l'inverse, celui qui est trop copain,
c'est ça,
dans le dolorisme, qui va se plaindre avec ou qui va souffrir avec d'une certaine façon.
C'est pas ce qu'on lui demande.
C'est pas ce qu'on lui demande. Ouais. Ce qu'on lui demande, effectivement, d'avoir du recul et de jouer son rôle. On ne demande pas à un manager, quand on va le voir, qu'on va lui dire j'ai trop de travail, chef, il va vous dire ah, moi aussi, hein, j'en peux plus, je souffre avec toi, c'est horrible ce qu'on nous met, quoi. Donc c'est pas
ça. Il n'a pas le droit de dire ça, le manager.
C'est pas, ouais, en tout cas, pas de cette façon, je pense. C'est pas bon pour lui de le dire. Peut-être qu'il va se lâcher, il va y avoir une ambiance de plainte, de complainte, de complaisance ensemble, et qui est mauvaise pour tout le monde, parce qu'on va pas trouver des solutions comme cela.
Bon, il faut poser un cadre, il faut poser des limites, en fait.
Pour pas se faire écraser.
Voilà, comme le disait effectivement Christophe, il s'agit pas d'être le manager copain. Ce que détestent les salariés, c'est à la fois le micro-management ou le laisser-faire total. Donc le manager laxiste, ça va pas non plus. En fait, le manager bienveillant, il doit être aussi dans la confrontation, mais la confrontation constructive et bienveillante. Et de l'écoute pour de l'écoute, simplement, ça n'a aucun sens. Si on écoute, c'est aussi pour agir et co-construire l'action qui doit améliorer la situation. Donc en fait, l'objectif n'est pas simplement d'écouter ou de souffrir avec, par compassion, mais aussi en fait d'aider. Et comment il le fait ? C'est en posant un cadre et des limites. Et ça va lui permettre aussi de mettre de la distance par rapport aux émotions du salarié et donc à l'impact que peut avoir cette détresse psychologique sur lui. Parce qu'il ne doit pas en fait être écrasé par cette détresse psychologique, sinon ça ne sert à rien, il ne pourra pas aider.
Et moi, quand je vous écoute, je me dis quand même il faut quand même un certain nombre de qualités. C'est pas simple d'être un bon manager.
Non, surtout aujourd'hui où les repères ont quand même beaucoup bougé avec le télétravail, l'augmentation des exigences, les multigénérations qui arrivent avec des attentes différentes, la question aussi des exigences du travail, la charge de travail qui augmente, les changements accompagnés, et en même temps, au-delà de performer, c'est aussi faire en sorte que les gens soient en bonne santé. Et des fois, ils sont sous injonction, contradictoire comme ça, ils disent comment je peux faire mes objectifs en donnant des congés aux gens alors qu'ils ont besoin de se reposer. Si je leur donne des congés, par exemple, ils n'y arriveront pas. Donc on voit qu'ils sont un peu parfois pris en tenaille. Et c'est cette idée de dire qu'il faut prendre dans l'équation de votre management le sujet comme étant un levier d'efficacité et pas juste une conséquence d'un travail trop difficile ou alors qu'il faut écouter tous les bobos du monde entier.
Est-ce que ça nécessite pas un soutien de la hiérarchie aussi pour être un bon manager et pour aussi se décharger de certaines manières? On a besoin des personnes qui sont au-dessus.
Bien sûr. Et justement, en fait, le manager, pour mettre un peu de distance par rapport à ses émotions négatives, il doit être dans l'autocompassion. Alors, on a parlé de la fatigue, de compassion, mais il doit être dans l'autocompassion, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir analyser ses propres émotions et en fait avoir cette démarche réflexive de se dire, est-ce que je suis quand même encore en zone de confort en tant que manager ? Est-ce que moi-même je suis très impactée et donc fragilisée et donc je dois peut-être demander de l'aide ? Et à ce moment-là, effectivement, il doit faire le relais parce qu'il ne peut pas forcément tout traiter et il ne peut pas tout solutionner non plus.
Mais il faut donc réussir à avoir de la distance sur les situations. Oui. On met de la distance sur les situations et l'empathie pour pouvoir les analyser.
À faire à prendre cette distance. Ouais. L'empathie, c'est pas être d'accord avec toutes les émotions de tout le monde. C'est au contraire arriver à comprendre ce que l'autre vit pour lui permettre de dépasser ça et de trouver des solutions en objectivant aussi la situation. Quelqu'un qui va s'estimer vraiment, par exemple, harcelé alors que c'est pas le cas, il faut l'écouter cette difficulté parce qu'on s'estime, quand on s'estime harcelé, généralement ça va pas très bien. Donc c'est essayer de comprendre d'où ça vient, d'objectiver les situations et de dire est-ce que c'est ça y est pas. Et après, on peut voir avec l'organisation, on parlait au management, il y a des référents, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà du soutien du management, il faut que l'organisation et l'entreprise comprennent que c'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet de leadership, un vrai levier, qu'il faut former les managers.
Oui, les sensibiliser énormément, et notamment aux signaux faibles du burn-out, parce que c'est pas forcément évident. On pense qu'on les verra très facilement en tant que manager, c'est pas vrai du tout, en fait.
Ça nécessite de la formation.
Absolument.
De la sensibilisation. Est-ce qu'on a des exemples d'actions concrètes menées par les entreprises pour que justement ça se passe bien?
Oui, bah, je peux vous donner un exemple de boîte qu'on a pu accompagner il y a quelques années, a formé 4000 managers sur ces sujets, alors qu'en 3-4 ans, en France et à l'international également.
Et c'était il y avait 4000 managers dans la boîte?
Oui, c'est une grosse boîte. Industrielle dans l'automobile, très connue, et qui, on va dire, avait sur ce sujet-là beaucoup de conflictualité, beaucoup d'arrêts maladie, beaucoup de conflictualité avec les partenaires sociaux, des problématiques à mettre en œuvre des actions, et finalement un rejet aussi des managers qui disaient finalement c'est trop négatif et c'est compliqué à gérer. Et sur ces sujets, il faut savoir dialoguer, donc il faut comprendre ce que c'est, il faut avoir des techniques aussi, si vous voulez. On forme les managers à savoir faire des entretiens de recadrage, d'entretien de recrutement, d'entretien de feedback, d'entretien annuel, mais pas d'accompagnement des personnes en détresse psychologique. Comment on fait? Quel est notre rôle? Jusqu'où ça va? Jusqu'où ça fait pas? Sur qui je m'appuie aussi en interne? Vous parliez des soutiens du manager, il y a aussi le soutien de l'organisation. Les entreprises, à partir d'une certaine taille, de toute façon, ont des médecins du travail, peuvent mettre en place des psychologues, des assistantes sociales également, et chacun son rôle là-dedans. Il faut pas que les managers se transforment en psy ou en médecins du travail.
Et donc, ça veut dire que ce sont vraiment les ressources humaines qui, aussi, à un moment donné, doivent mettre en place un certain nombre de dispositifs pour que ça se passe bien et pour former aussi, accompagner les managers.
Oui, et puis aussi pour le rendre plus clément par rapport à lui-même, parce que le manager culpabilise dans ces cas-là. Il se dit, si mon équipe va mal, si mes collaborateurs sont en détresse psychologique, je suis responsable. Non, il n'est pas forcément responsable. Et donc, effectivement, comme vous m'avez dit, vous avez une réflexion que j'ai trouvée très intéressante, parce que ça résume très bien la situation, qui est le manager doit prendre en compte la détresse psychologique, mais pas la prendre en charge. Ouais. C'est toute cette nuance, en fait, savoir écouter sans supporter.
C'est pas un médecin, quoi. Hein, c'est pas un professionnel de santé.
C'est pas un médecin. Et alors, où ça évolue quand même dans les entreprises, c'est que effectivement, 8 salariés sur 10 ont l'impression que les dirigeants occultent complètement ce sujet, ne prennent pas du tout en compte ce sujet de santé mentale. Or, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce qu'une étude récente du BCG qui, en fait, a montré que la première préoccupation des RH, tout pays confondu, sauf Hong Kong, cette priorité, c'est à la fois la santé mentale ou l'évolution des compétences. Donc il y a la santé mentale qui est dans la priorité des RH dans tous les pays.
Voilà, elle est dans la priorité, mais c'est aussi une des grandes frustrations des RH. Ils disent qu'ils sont happés eux aussi par l'administratif, par les sujets d'urgence, qui ne leur permettent pas de travailler sur ce sujet de fond, alors qu'ils savent qu'ils sont attendus. Donc c'est peut-être un autre sujet, mais c'est la question
qui fera l'objet d'une prochaine émission. Un sujet en tout cas à retrouver dans le dernier numéro donc de la Harvard Business Review, dont vous êtes rédactrice en chef adjointe, Caroline Montaigne. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Christophe Nguyen, psychologue du travail, président d'Empreinte Humaine. Merci d'avoir été avec nous. On file dans le labo d'Happy Boulot.
Happy Boulot, le lab.
Et cette semaine, c'est le coup de cœur d'Happy Boulot, la sélection de Camille Bourg. Camille, vous avez choisi les meilleures idées RH pour se détendre, mais se détendre au travail. C'est Erwan, la séquence kiff de l'émission. Là.
Exactement. Erwan, aujourd'hui, je vais vous parler de sieste, de massage, de méditation. Ça doit vous inspirer la détente, le repos. Mais attention, on parle bien ici du monde du travail, vous l'avez dit. Parce que oui, c'est possible de prendre soin de sa santé mentale et physique dans ce cadre-là. Et c'est un sujet qui inspire d'ailleurs de nombreuses startups, notamment en France. Et c'est le cas de Maxisom, basé à Toulouse. Cette dernière envisage de développer des cabines à sieste insonorisées.
Alors, on a les images pour ceux qui nous suivent à la télévision. On se croirait un peu dans un vaisseau spatial. Hein.
Exactement, mais ça fait rêver. C'est, l'objectif ici, c'est d'augmenter la productivité des salariés et de diminuer, de fait, du coup, le nombre d'arrêts maladie. On le voit sur cette image, donc c'est magnifique, ça donne envie. Si le concept existe déjà, Maxisom vise cette fois-ci un positionnement haut de gamme et un circuit court, un premier prototype qui devrait être présenté d'ici 2025. Donc, avis aux entreprises intéressées.
Mais il faut de la place pour mettre ça, parce que j'ai l'impression que ça prend quand même de l'espace. Il faut avoir des grands bureaux.
Il faut avoir des grands bureaux et ça coûte assez cher aussi.
Combien ça coûte?
Je crois que c'est dans les 20 à 30 000 euros, mais il faudra vérifier.
C'est un investissement. Est-ce que vous savez s'ils ont intégré un réveil ou pas avant qu'on...
Non, mais je pense que c'est quand même assez high-tech.
Bon, voilà. Parce qu'il ne faut pas faire une sieste de 4 heures au bureau. Ça risque d'être mal vu par les RH. Bon, après la sieste, Camille, on passe un petit massage.
Exactement, il y a des masseurs professionnels qui se déplacent directement dans les bureaux.
Ça, c'est bien.
Alors, c'est le cas de la start-up Massage Chouette qui propose des séances sur des chaises AMA, donc des chaises de massage assis. Les objectifs sont les mêmes ici, se détendre et recharger les batteries des salariés. On le voit aussi sur cette image, donc une salariée qui est installée.
Elle dort là, et en sommeil.
Confortablement.
Sommeil profond.
Et qui se fait masser les mains. Des séances courtes de 15 minutes qui sont personnalisables en fonction de vos besoins, réduction du stress, évacuation des tensions, douleurs musculaires ou concentration. Il y a l'embarras du choix.
Mais donc, cette société, elle fournit quoi? C'est pas juste l'appareil, il y a aussi le masseur qui vient.
Il y a les experts, effectivement. Ils ont le matériel, donc ces chaises-là. Ouais. Et ensuite, on a les professionnels qui viennent sur place directement.
Bah en tout cas, ça donne envie aussi, hein, si les RH nous écoutent.
Voilà, n'hésitez pas. C'est quelque chose à bon entendeur.
Qui peut faire plaisir, exactement. Et enfin, alors, on termine avec un grand classique.
Le grand classique, c'est la méditation. On entend parler de ses bienfaits depuis un certain nombre d'années maintenant. Alors, la pratique, elle est très connue dans le monde personnel, enfin, dans la vie personnelle. Mais il faut savoir qu'elle est aussi très efficace pour gérer son quotidien au bureau. Et ça, Morning, l'entreprise spécialisée dans les espaces de travail et de coworking, l'a bien compris. Et ils ont noué un partenariat avec le studio de méditation moderne Bloom. On le voit aussi sur ces images. On voit des salariés.
On voit des gens qui dorment.
Qui sont allongés sur des tapis.
Je ne sais pas s'ils méditent ou s'ils dorment, mais.
On ne sait pas. Ici, les professionnels, ils ne se déplacent pas comme c'est souvent le cas. Ce sont les salariés qui se déplacent. Ah. Mais là, chance à Paris en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de chemin à faire puisque les salariés ont cette zone de méditation qui est située juste en bas des bureaux.
Mais donc ça se fait sur le temps de travail là encore?
Ça se fait sur le temps de travail exactement. Ouais, ou sur la pause déjeuner, dépend des employeurs. Ouais. Sachant que pour les espaces de coworking, on est souvent entrepreneur, indépendant, donc on a souvent petite flexibilité plus que parfois dans certaines entreprises.
Bon, bah ça aussi,
donc c'est pratique. Ouais. Donc un peu la conclusion de tout ça, c'est que côté entreprise, prendre soin du bien-être des collaborateurs est donc un enjeu qui est devenu crucial et pour plusieurs raisons, un salarié épanoui et généralement plus productif, plus créatif et aussi plus fidèle à son entreprise.
Ah forcément. Merci beaucoup Camille Bourg.
Merci Awen.
Pour ces bonnes idées. Personnellement, tout m'a fait envie. Vous pouvez tout m'acheter. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez votre émission comme tous les week-ends en podcast, en replay. Merci à Flo Alban qui était en manette au régie. On se retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, on vous souhaite bien sûr, comme toujours, d'être heureux. Au boulot.
Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.